La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Demain matin à Saint-Rome-de-Tarn, il y aura une manifestation pour soutenir Fernand Courdy. Ici présent dans les studios de Radio Centrafrique, Fernand Courdy, qui est le garagiste de Saint-Rome-de-Tarn. Alors, vous êtes expulsé de vos locaux suite à une décision du tribunal de grande instance de Rodez. Est-ce que vous pouvez nous clarifier d'où vient ce litige qui vous oppose clairement, on peut le dire, à la municipalité de Saint-Rome-de-Tarn ?
Oui. Donc en fait, la mairie de Saint-Rome-de-Tarn a demandé mon expulsion, s'appuyant sur le fait que j'avais omis d'envoyer un courrier par recommandé un an avant la fin du terme du contrat crédit bail atelier relais. Donc l'oubli de ce courrier, c'est ce qu'a retenu le jugement en référé, et seulement l'oubli de ce courrier.
Donc c'est une procédure administrative, l'oubli d'une lettre envoyée qui vous a mené à l'expulsion.
Voilà, tout à fait, c'est ce qu'on appelle sur la forme. Forme date où en fait je devais envoyer donc au plus tard au 31 décembre 2009 un courrier par recommandé stipulant bien que je voulais être propriétaire du bien que j'avais payé.
Voilà. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est donc ce type de contrat que vous avez signé il y a plus de 15 ans avec la municipalité, c'est
oui.
ça
Oui, alors un atelier relais a été édifié pour tout simplement parce qu'il n'y avait pas de garagiste à Saint-Rome-de-Tarn. Et pour pérenniser cette activité, mettre toutes les chances du côté de l'artisan, la municipalité d'époque avait bâti donc un bâtiment. Et sur ce bâtiment, il y avait un emprunt. Et cet emprunt, c'était moi qui devais le rembourser. Donc le montant de 470 euros a été fixé mensuellement, chose que j'ai toujours honorée. Et donc aujourd'hui, ce local est payé totalement et il devait me revenir au 1er janvier 2011.
Sauf que donc il y a eu l'oubli d'un courrier. Alors, ce qui complique la situation, c'est qu'on nous parle d'une dette que vous auriez envers la municipalité. Ça brouille un peu les cartes pour comprendre le problème. Qu'est-ce que c'est cette histoire de dette ?
Oui, je pense que c'est une volonté de la municipalité de porter là-dessus la confusion. Car je crois que l'oubli de ce courrier, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas le comprendre, puisque verbalement j'avais levé l'option auprès de la municipalité. Ils savaient très bien que je souhaitais me porter acquéreur de cet atelier. Donc en fait, excusez-moi, répétez-moi votre question.
L'histoire de la dette, donc vous
oui,
devriez
voilà.
des sous, et du coup ça se mêle à cette histoire de courrier oublié.
Oui.
Est-ce que vous pouvez clarifier ça peut-être ?
Oui, je vais rentrer dans cette confusion en essayant d'être clair et le plus bref possible. Donc en fait, j'ai exercé la fonction de... j'ai géré la station-service municipale de 2006, de juin 2006 à juin 2009. J'ai rencontré des difficultés, j'en ai fait part auprès de la municipalité et je disais que leur précisais que j'avais bien du mal à honorer les loyers. Ils ont été d'accord pour un dialogue. Ce dialogue est encore aujourd'hui... cette dette aujourd'hui, elle est toujours présente. Hein. Il faut savoir que on va rentrer dans cette confusion précisément pour justement comprendre la chose. Je vais essayer d'être clair. Voilà. Donc, il s'agit de 10 000 euros. 10 000 euros de loyer impayé station-service. Il faut savoir que le 13 décembre 2010, j'ai demandé une réunion en mairie avec les intéressés et été convié le conseiller général. M'appuyant sur un précédent qui a eu lieu à Saint-Jean-du-Bruel, une affaire totalement similaire à la mienne, où il y avait un déficit de station-service et un garagiste bien embêté. À Saint-Jean-du-Bruel, la solution a été trouvée. Le conseil général a apporté une aide, une subvention de 10 000 euros pour régler le différend. Donc je demandais à Saint-Rome-de-Tarn si c'était possible pour moi. Et quelques jours après cette réunion, le conseil général m'a bien informé que oui, c'était possible et m'a précisé qu'il fallait que la mairie l'accepte. Ça m'a un peu surpris parce que l'accepter, je pensais que là on avait trouvé enfin un accord possible. Et la municipalité de Saint-Rome-de-Tarn, apparemment, ne souhaite pas prendre cet argent du conseil général.
Donc finalement, il y a deux histoires qui se croisent. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, il y a M. Robert Sicard qui est aussi à nos côtés, qui fait partie du collectif de soutien à Fernand Courdy, puisque la population de Saint-Rome-de-Tarn se mobilise. Bonjour Robert Sicard.
Bonjour.
Alors, votre avis, comment vous avez réagi et comment ce collectif s'est monté? Bon,
d'abord, Fernand est un ami que je vois quasiment tous les jours. Et j'ai été amené à me rendre compte des difficultés qu'il rencontrait. Mais préalablement, je voudrais donner une précision par rapport à la question que vous avez posée à Fernand sur la station-service. La station-service était basée sur... la gérance était basée sur un contrat qui était nécessairement voué au déficit. Et qu'on pouvait attendre éventuellement de la mairie qu'elle revoie ce contrat parce qu'il s'appuyait sur une étude de marché qui datait de 6 ans avant la signature du contrat. À cette époque-là, il y avait les travaux du viaduc de Millau, l'essence était moins chère, il y avait un trafic très important, et donc cette étude de marché avait évalué, tu vas me donner des précisions par rapport à ça, s'il te plaît, oui, Fernand, 38, le volume
38 000 litres moins.
Et ça s'est retrouvé à l'usage réduit de moitié, même du tiers. Donc, n'importe quel gérant aurait été en difficulté et en déficit. Et il est dit ici et là, dans des textes, que dans ces situations-là, la municipalité a vocation à aider les entreprises en difficulté. Et d'ailleurs, ça a été rappelé dans un communiqué de presse par notre conseiller général et député, Alain Marc. Alors, si vous voulez bien me reposer une question pour revenir par rapport à ce que vous m'avez demandé.
Revenir sur la mobilisation de la population saint-romaise qui soutient visiblement Fernand Courdy.
D'abord, ça a démarré suite à un conseil municipal que nous avons appelé un conseil municipal pas très ordinaire du tout. Il était inscrit à ce conseil municipal un ordre du jour s'agissant de prendre une décision pour intenter une action en justice contre le garagiste Fernand Courdy. Donc, plusieurs, nous sommes allés assister à ce conseil municipal et c'était extraordinaire de démocratie, c'était vraiment un modèle de démocratie, car il n'y a eu aucun débat. Tous les votes ont été, se sont exprimés à l'unanimité, comme un seul homme. Ensuite, il y avait une autre question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour. C'était la question de savoir si on acceptait les 10 000 euros proposés par le Conseil général ou pas. Ça n'était pas inscrit à l'ordre du jour, je le répète, et ça a été voté, ça a été refusé à l'unanimité. À la suite donc de ce Conseil municipal, nous avons été très émus et nous avons eu la possibilité de nous exprimer. Pas très facilement de la part du maire, puisque à la fin des délibérés, il nous a dit « je donne la parole au public, je donne la parole par déontologie ». Donc il n'avait pas tellement envie de nous donner la parole, mais il se trouve qu'à ce moment-là, parmi le public, se trouvaient présents le conseiller général et le député. Il était d'ailleurs à mes côtés. Donc monsieur le maire ne pouvait pas ne pas donner la parole au public. Et quand on a pris la parole, en particulier moi, j'ai dit, vous venez de prendre là une décision qui risque d'avoir des conséquences dramatiques. Les mesurez-vous, pas de réaction. Ça nous a extrêmement émus, parce que mettre à la rue quelqu'un comme ça, père de famille, qui se retrouverait sans rien, ça, pour nous, était une question d'éthique, de morale, on a trouvé ça insupportable.
Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi une municipalité refuse l'aide du Conseil général pour maintenir un service, finalement, parce qu'une station-service dans un village comme Saint-Rome-de-Tarn, j'imagine que ça compte pour la vie du village.
Oui, bien sûr. Moi, je me suis vraiment interrogé, puisque ce conseil municipal en date du mois de mai 2011, c'est là que j'apprends qu'on refuse l'aide. Il faut bien le comprendre. Ça, la dette, on refuse l'aide du conseil général. Je ne le savais pas jusque-là. Et il faut savoir qu'un mois auparavant, c'est-à-dire, alors, je reviens au mois d'avril 2011, j'avais reçu un courrier en recommandé de la municipalité me demandant mon expulsion. C'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que tout a été bien orchestré et, oui, oui. Pour, avec détermination pour me chasser.
Parce que cette station-service, là, aujourd'hui, elle est opérationnelle. Il y a un gérant qui a pris votre succession ou pas ?
Oui, il y a un gérant qui a pris ma succession. On lui a baissé le loyer de plus de 130 ou 150 euros. Et je peux dire, puisque j'y travaille en face, qu'aujourd'hui, elle connaît bien et bien des difficultés, j'en suis certain.
Par ailleurs, il faut noter qu'elle est en panne un jour sur deux. Et qu'elle est restée en panne pendant l'été, plus presque pendant la durée d'un mois, je crois.
Oui, je suis régulièrement sollicité pour dépanner des gens, car cette station ne fonctionne pas bien, il y a des problèmes techniques. Et bien évidemment, comme je suis juste à côté, on vient me demander de l'aide. Voilà, et le gérant n'étant pas sur place, il arrive fréquemment que cette station se retrouve en panne, voire plusieurs jours de suite.
Donc, si j'ai bien compris, il y a deux problèmes à régler. Finalement, c'est ce problème par rapport à l'atelier relais, cette lettre non envoyée qui conduit à votre expulsion prononcée par le tribunal de grande instance de Rodez le 10 février, donc tout prochainement, et cette histoire de dette que vous devriez à la municipalité, qui a refusé l'aide du Conseil général et Alain Marc. Alors là-dedans, il réagit comment ?
Bien, écoutez, Alain Marc, il est resté jusqu'à présent relativement discret sur la question, mais on a bon espoir qu'il s'occupe et que peut-être aurait-il quelques clés pour régler le problème. J'ai dit bien peut-être.
Bon, écoutez, on peut peut-être rappeler la manifestation, l'horaire et le lieu demain matin. Robert, peut-être, Sicard ?
Alors la manifestation, on a appelé à manifester sur la place du Ravelin, demain samedi à 9h30, au pied de la statue de Monseigneur Denis Affre qui a été tué sur les barricades. Tout un symbole, donc.
Eh bien, écoutez, on vous remercie. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Moi, oui, si vous me permettez.
Oui.
Il m'est arrivé d'alerter à plusieurs reprises Monsieur le maire de la situation morale concernant Fernand Courdy. Nous avons estimé qu'il fallait porter assistance à une personne en danger. Ça n'a pas beaucoup ému, semble-t-il, Monsieur le maire. D'ailleurs, dans le dernier communiqué qu'il a publié, il a conclu son communiqué en disant « Tout cela n'est que verbiage irresponsable ». Et moi, de lui poser la question, et de la poser au public, de la poser sur la place publique, j'ai dit « Est-ce faire dans le verbiage irresponsable, est-ce irresponsable que de porter assistance à personne en danger ?» Et je crois là qu'il y a un problème éthique, un problème moral, et on ne comprend pas pourquoi le maire s'acharne autant alors qu'il y avait possiblement des solutions.
Bon, on va essayer de l'appeler, ce maire. On verra s'il nous répond. Fernand Courdy, Robert Sicard, merci. Et donc
merci
demain matin à 9h30 sous la statue de Monseigneur Affre à Saint-Rome de Tarn.
Ok, merci.
Au revoir.
Et on reste dans les manifs avec une action des parents d'élèves de Saint-Jean-d'Elnouz, Vabre, Rebourguil et certainement bien d'autres. Ils seront sur le marché demain à partir de 10h30 pour alerter la population sur les fermetures de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Dimanche, la FNACA de Saint-Rome de Cernon organise une causerie diaporama sur le thème « Aveyron, Algérie au temps des colonies, une histoire partagée ». L'occasion de réécouter Roger Lajoie-Mazinck au micro d'Elsa Gourmand.
En 1958, à l'âge de 22 ans, Roger Lajoie-Mazinck est appelé en Algérie. Il est affecté à Togourte, au Sahara, où avec ses compagnons d'armes, il est chargé d'assurer la protection des cuves de stockage de pétrole. À son retour d'Algérie, fin 1959, il s'engage dans le mouvement pour la paix, échappe à un attentat de l'OAS et contribue à installer la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, en Aveyron. Auteur de nombreux ouvrages, il va à la rencontre des élèves dans les collèges et lycées, raconter cette guerre qui ne voulait pas dire son nom, raconter son expérience de troupier et celle de ses compagnons. Une guerre dont il n'avait aucune idée quand il fut appelé. « C'était quoi le quotidien d'un soldat en Algérie?
C'était les tâches habituelles, bien sûr, qu'il y a dans tout régiment. Mais c'était surtout les patrouilles, la garde du camp, et ensuite les patrouilles en ville et les patrouilles à la campagne avec les impondérables, c'est-à-dire les attentats, les attaques qu'il pouvait y avoir, les embuscades, et tout ce qui fait le côté particulier de cette guerre qui n'en était pas une officiellement.
Qui étaient les hommes qui étaient avec vous?
Alors moi, du fait de mon départ un peu bizarre, si je puis dire, je me suis retrouvé dans un régiment avec des garçons qui venaient peu de l'Aveyron, mais surtout de la Bretagne, et des garçons qui, pour certains, étaient souvent incultes. C'est ainsi que j'ai été amené à écrire beaucoup de lettres pour des camarades qui voulaient écrire à leur petit ami ou qui simplement à leurs parents et qui ne savaient pas écrire ou assez peu pour faire une lettre. Donc j'étais dans cet environnement-là et j'étais un petit peu leur dieu parce que j'étais capable de faire des choses. Et c'est ainsi que, par exemple, lorsqu'il y avait un décès, un de nos camarades tué, la hiérarchie me chargeait à moi d'écrire la lettre à la famille pour expliquer dans quelles conditions le camarade avait été tué.
Ça devait être difficile.
C'était pas réjouissant, c'est pas facile, mais bon, je l'ai fait. Et quelquefois, j'en ai même pas assisté à, si c'était pas ma patrouille, j'ai même pas assisté à la mort, quoi.
Quel rapport est-ce que vous aviez avec la population algérienne?
Mais les rapports étaient différents. C'était selon. On avait de bons rapports avec la population, si l'on peut dire, mais on avait de mauvais rapports aussi dans la mesure où dans la population pouvait se cacher de certains de nos adversaires et où la population pouvait également protéger certains de nos adversaires. Donc il faut savoir qu'on était bien reçu, mais on pouvait également être très mal reçu. Donc on pouvait être tombé dans une embuscade, dans un attentat, et bon, ça ne prévenait pas, on ne savait pas exactement ce qui nous attendait. Donc il fallait être très prudent, très vigilant, et donc on avait un sentiment mitigé.
Vous avez eu à vous battre
Oui, bien sûr, oui, comme pratiquement tout le monde là-bas. Puisque je vous dis, la guerre était à tous les coins de rue, à tous les coins de palmeraie, à tous les coins de... sous tous les pitons et un peu partout. Donc ça ne prévenait pas. L'autre jour, je faisais une causerie pour des lycéens et la question qu'ils m'ont posée, c'était de savoir s'il y avait des tranchées. Ils étaient marqués par la guerre de 14-18. Chez nous, il n'y avait pas de tranchées. C'était la guerre à découvert, puisque c'était du cache-cache permanent et du guet-apens en permanence.
On parle d'une embuscade. On parle de coups de feu et on explique qu'une voiture est tombée entre les mains des Fels. La voiture a été retrouvée avec deux gendarmes égorgés. Le médecin n'était pas dans la Jeep. Quelques jours plus tard, il y a ce corps qu'on trouve pas très loin de là où, le même jour, seulement quelques heures plus tôt, on avait retrouvé des poteaux télégraphiques sciés. Ils se disent « C'est pour ça que les Fels ont fait tomber les poteaux télégraphiques. » Parce qu'ils savaient que quelqu'un viendrait les réparer et alors trouverait le corps avant qu'il ne soit dévoré par les bêtes, les chacals, les chiens errants, avant que le soleil n'ait fini de le ravager, de le brûler, de le rendre méconnaissable, pour qu'il soit suffisamment intact encore, on pourrait dire lisible, oui. Pour que chacun comprenne bien ce qui a été dit ici, ce qui se dit à travers lui. C'est pour ça que les Fels avaient scié les poteaux, pour qu'on revienne ici et qu'eux puissent laisser un cadavre sans risque d'être pris ou repéré, sans personne aux alentours.
Extrait du roman de Laurent Mauvignier, Des hommes.
Mauvignier a très bien recueilli ce que son oncle, puisque je crois que c'est le récit de son oncle ou de son père, en tout cas de son oncle, qui a fait la guerre d'Algérie, contrairement à lui qui ne l'a pas faite, bien entendu, puisqu'il était trop jeune, a fait un récit assez fidèle, mais il n'a retenu que les phases dures. Il y a eu plus que ça en Algérie, il n'y a pas uniquement de la bagarre, de la torture, il y a eu également des scènes de fraternité, et nous avons eu là-bas des actions généreuses. Je pense à la scolarisation, je pense à l'assistance médicale. Donc il n'y a pas eu que ce qu'on retient essentiellement aujourd'hui, et en nous mettant sur le dos souvent des scènes de torture dont nous ne sommes absolument pas responsables, ni les auteurs. Nous avions une division spéciale qui s'appelait la division opérationnelle de protection, un joli nom pour camoufler ce que c'était, la DOP, D-O-P, donc était chargée des tortures. Alors bon, évidemment, nous faisions des prisonniers, et ces prisonniers étaient remis à cette fameuse DOP, donc nous étions les témoins de ce qui se passait, mais nous n'en étions pas les acteurs.
Quel regard est-ce que vous portiez sur cette guerre au moment où vous la viviez?
C'était difficile parce qu'on n'avait pas du tout été préparé. On n'avait eu aucune formation sur la guerre elle-même, quoi. Sinon, dans les classes, quelques formations pour le maniement de l'arme, la préparation au combat, mais aucune information sur le pourquoi de cette guerre et le comment de cette guerre. Donc, chacun l'a pu la vivre différemment. Vous voyez, l'autre jour, j'ai rencontré un officier qui m'a dit « Moi, je ne peux pas dire que j'ai fait la guerre d'Algérie. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il me dit, parce que j'étais en aviation. J'ai dit, mais que faisiez-vous dans l'aviation? Il me dit, ben, on volait et on balançait du napalm sur les villages. Donc, il n'a pas fait la guerre d'Algérie.
Et d'un point de vue politique, comment vous vous situiez
Je n'avais pas d'engagement politique à l'époque, sinon que j'étais déjà de sensibilité de gauche, bien entendu. Et donc j'avais un regard assez critique par rapport au gouvernement socialiste, d'abord, qui nous avait envoyé là-bas, qui avait mis les gros moyens pour cette guerre d'Algérie, en prenant le maintien de la France en Algérie, ce colonialisme persistant, là, alors qu'on venait d'abandonner l'Indochine. Et puis par la suite, un regard critique également pour le général de Gaulle qui avait son double langage en nous faisant croire à une Algérie française alors qu'il préparait l'indépendance, il le savait. Je pense que celui qui a été un petit peu le déclencheur de la vérité dans cette opération, c'est sûrement Michel Rocard qui avait fait un rapport sur la question et qui avait dénoncé pas mal de choses, mais on n'en avait pas tenu compte ouvertement.
Vous êtes revenu en 1959. Comment s'est passé votre retour ?
Et mon retour, moi, il faut savoir que je me suis marié pendant la guerre d'Algérie. Je vous disais qu'on avait une seule permission pendant les 2 ans. Et donc, j'ai trouvé l'astuce, j'étais fiancé, j'ai trouvé l'astuce de me marier avant la fin de mon séjour en Algérie, c'est-à-dire en septembre, pour bénéficier d'une permission d'une semaine, une permission supplémentaire, donc, ce qui m'a fait une coupure. Et je suis donc rentré en fin d'année 59, marié, donc, et tout de suite... appelé à prendre la tête d'une famille, bien entendu. Donc, mon retour a été d'installation. Je suis allé à ce moment-là affecté à Mende, en Lozère, donc d'installation à Mende, où j'ai essayé de mobiliser un petit peu pour créer quelque chose pour les soldats, puisque la guerre n'était pas finie. Je voyais arriver les corps de nos camarades qui étaient tués là-bas, alors que moi, j'étais déjà rentré. Et donc, j'ai pas réussi à mettre en place quelque chose qui aurait pu fédérer ces anciens soldats, alors que l'AFNACA existait déjà à cette époque-là, puisque l'AFNACA a été créée en 1958, donc bien avant l'affaire de la guerre d'Algérie, et nous étions là en 1959-1960, puisque je suis rentré fin 59 en 60, donc je n'ai pas pu arriver à fédérer à ce moment-là pour créer cette association au niveau de la Lozère.
Et est-ce que vous avez pu parler de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez vu en Algérie ? Est-ce qu'on vous écoutait ? Est-ce qu'on vous entendait ?
On n'en parlait pas très peu, on ne nous questionnait pas, on ne nous posait pas de questions, nous ne parlions pas. Alors moi j'ai trouvé le biais par le mouvement de la paix, c'était une association donc, qui m'a permis un petit peu de m'exprimer et surtout de me faire entendre et surtout d'avoir des réactions autres que la mienne, puisque dans le mouvement de la paix s'exprimait beaucoup de courants et beaucoup de choses. Hein. Et donc, à travers le mouvement de la paix, j'ai réussi quand même à parler et à écouter. Et donc, je me suis retrouvé notamment à un congrès national du mouvement de la paix, où d'ailleurs nous avons été victimes à l'entrée de la salle d'un attentat OAS qui a fait parmi nous 3 morts et 50 blessés. Et qui a appelé une très grosse manifestation dans les rues d'ici des Moulineaux. Et donc, c'est un choc quand même, et puis c'est une prise de conscience supplémentaire par rapport à l'OAS, puisque c'est l'OAS évidemment qui était à l'auteur de cet attentat.
Je voudrais revenir au retour des appelés en France. Est-ce qu'il y a quand même eu des gens traumatisés par cette guerre ? Est-ce qu'on a entendu leur douleur, leur souffrance en France ?
Très peu. Je prends l'exemple personnel que j'ai cité dans un de mes livres. Je ne sais pas si c'est dans la guerre de là-bas ou dans cette guerre inachevée. Moi, vivant dans une cité qui était la cité des 4 saisons, à Rodez, on est le château, donc j'ai un garçon qui venait tous les soirs à la tombée de la nuit chez moi, frapper à la porte en me disant « Écoute, il faut que tu fasses quelque chose, je suis poursuivi, j'ai même entendu un bruit de culasse dans mon dos. » Ce garçon était rentré depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Il avait encore l'impression qu'il était en Algérie avec une menace permanente et donc il venait demander ma protection. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et donc j'ai pris l'initiative de m'engager à l'AFNACA. Et puis nous avons créé des comités. J'étais président du comité de Rodez. Et j'ai mis en place donc à Rodez une commission juridique et médicale qui permettait donc de faire des permanences et d'accueillir des garçons qui étaient en détresse, qui avaient des problèmes, pour essayer de constituer des dossiers de demande de pension et des demandes d'aide s'il en était besoin.
Roger Lajoie-Mazinck, que vous pourrez rencontrer dimanche après-midi à la salle des fêtes de Saint-Rome de Cernon à 15h pour la causerie Diaporama, Aveyron, Algérie, au temps des colonies, une histoire partagée.